conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour, bonjour chers auditeurs, je reçois aujourd'hui encore une architecte, on ne s'en lasse pas, Maude Cobé. Bonjour Maude.
Bonjour.
Alors, vous êtes, vous faites partie de cette lignée de jeunes architectes qui essayent de bousculer un petit peu les idées. Et j'aimerais bien, en ce retour de confinement et de période sanitaire un petit peu compliquée, que vous me disiez déjà comment vous allez, comment va votre équipe, et est-ce que vous avez retravaillé en présentiel? Comment s'est passé le confinement?
Écoutez, déjà, je vous remercie, je vais bien. Et écoutez, le confinement s'est bien passé. Alors, c'est une époque, je pense, assez inédite pour tout le monde, aussi bien pour nous, professeurs architectes, que personnes humaines, c'est-à-dire habitants avec une famille, habitants seuls. On a des contextes de vie très différents, ici en France et aussi à l'étranger. Et le confinement, je tiens à le signaler, pour ma part, c'est très bien passé d'un point de vue personnel. J'ai eu le plaisir de vivre avec mes enfants et mon mari dans un lieu qui nous permet d'être épanouis, bien évidemment. J'ai de la chance. En revanche, d'un point de vue professionnel, je fais partie de ceux qui ont souffert de ce confinement,
souffert de la
distance avec les collaborateurs.
Avec les collaborateurs, parce que vous êtes à cheval sur plusieurs pays, n'est-ce pas, en Europe?
Oui, absolument. Alors, j'ai la particularité d'habiter dans deux pays différents. Je travaille la journée à Paris et je rentre le soir à Bruxelles. C'est là depuis une dizaine d'années. Donc j'ai toujours eu l'habitude de m'adapter, d'être un petit peu dans l'urgence de l'information, d'essayer de donner des inputs au quotidien par les grès de la communication. Mais j'ai ce besoin de me déplacer, de voir mes équipes en présentiel. Je prône l'idée du travail à l'ancienne, c'est-à-dire se retrouver tous ensemble autour d'une table et
voilà, avec le calque et le crayon. Non, vous êtes quand même autour d'un ordinateur, mais le calque et le crayon aussi.
En parallèle, on fait les deux et on est un petit peu une génération. Alors c'est un mot qui est très à la mode en ce moment. Là, on parle d'agilité. Alors vous avez dit aussi que j'étais une jeune architecte. Je viens de passer la quarantaine. C'est vrai qu'on est cette génération d'entre-deux où on a été formé au calque et au papier et en même temps on apprend. On a vite après le diplôme travaillé avec les systèmes informatiques qui sont extraordinaires. Et donc on fait un mélange habile entre le papier et l'informatique. Et je dois dire que ça marche très très bien.
Bon, on aura l'occasion de revenir un petit peu sur le parcours, l'ADN de l'agence. Mais là, je voulais un petit peu, j'ai bien compris, c'était compliqué. Est-ce que pour un petit peu, on va dire, dégrossir le débat, est-ce que cette période pour vous est un enjeu qui est un enjeu important? On va pouvoir en tirer des enseignements et peut-être améliorer notre cadre de vie sur le logement. Qu'en pensez-vous?
Alors, c'est vrai qu'on écrit beaucoup en ce moment sur le monde de demain. Et depuis que j'ai créé mon agence il y a une quinzaine d'années, j'ai toujours été dans des périodes de crise. On a subi au quotidien des crises, qu'elles soient des crises, les attentats, les canicules, les crises des banlieues. Récemment, les mouvements MeToo. Maintenant, la crise de l'hôpital, les gilets jaunes, etc. Donc, je suis une génération des années 80 qui avons vécu et qui vivons dans la crise. Et force est de constater que ces crises, elles s'enchaînent les unes avec les autres et qu'elles sont à chaque fois complémentaires.
Mais elles ne sont pas quelque part dynamisantes pour la créativité?
Absolument, absolument. Elles sont dynamisantes parce qu'elles posent un peu plein de questions. Et c'est vrai qu'à l'époque, elles étaient monorientées sur une thématique, la famine, dans les années 80, le sida, etc., etc. Et là, maintenant, avec les réseaux sociaux, on constate un croisement de toutes ces crises-là. Et en fait, on se rend compte que le système qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, qui pouvait fonctionner pendant les Trente Glorieuses, eh bien, il ne fonctionne plus. Et nous, les architectes, j'assume le fait de dire que nous avons un rôle prépondérant dans la construction, dans l'art de construire la ville, puisque la ville, elle instaure un cadre de bâti et le cadre de bâti instaure un état d'esprit, créer des lieux où il faut bien vivre, on parle de bien-être, créer des lieux qui sont anxiogènes, Donc on a.
Cette émergence du rôle prépondérant des architectes dans le faire de la ville, ça vous amène à quelle réflexion vous et votre équipe sur justement le logement de demain?
Alors, encore une fois, le Covid, je pense qu'il ne fait que catalyser des phénomènes qu'on a évidemment pu percevoir à travers les temps. On parlait des crises des banlieues, on parlait de la crise du logement. Nos pauvres étudiants sont obligés de produire des faux papiers pour pouvoir trouver un logement, ce qui est absolument inadmissible. On ne sait pas loger des familles qui sont dans le besoin. Je ne parle même pas de la crise de l'immigration, des faux papiers, des sans-papiers pardon, qui ne savent plus comment se loger. Donc on a depuis des années cette crise latente du logement. Donc le Covid ne fait que catalyser et l'intérêt de cette crise, qui est peut-être salvateur, c'est qu'effectivement on va pouvoir enfin, si les pouvoirs politiques s'y mettent et tous ensemble, avancer, mais plus qu'il ne le faut dans cette dynamique-là, et repenser le cadre de nos villes et imaginer des logements qui soient humains.
Donc justement, logement humain, qui dit logement humain, pour vous, la créativité sur le logement humain par rapport aux espaces extérieurs, à la cuisine, aux espaces de vie, à l'équilibre entre la salle de bain qui fait 5 mètres carrés par rapport aux normes PMR et pas de balcon. Donnez-moi un peu plus de précision, vous, sur votre manière de réagir justement par rapport à cette nouvelle créativité.
Alors, elle est extrêmement compliquée et en même temps, je suis ravie de pouvoir maintenant avoir une agence qui a les capacités de pouvoir créer des idées et de pouvoir intervenir. Je vous remercie de l'invitation. Mais c'est vrai qu'on a on est dans un paradoxe. En même temps, il faut qu'on travaille des idées de logement réversible, mutable, transformable, la pièce en plus qui va permettre de pouvoir loger nos seniors, nos amis qui viennent nous rendre régulièrement visite, etc. L'adolescent qui finit par rester à la maison le plus longtemps possible.
Et le télétravail.
Et évidemment le télétravail. Donc l'idée de créer des appartements qui puissent se transformer au gré de nos vies et au gré de la journée. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a une notion de chronotopie, c'est-à-dire vraiment prendre le paramètre du temps, des cycles, des saisons et des crises. Oui, évidemment qu'un appartement doit avoir un espace extérieur. Alors l'espace extérieur, il peut être, même si c'est 5 mètres carrés, ça peut être salvateur, le fait d'avoir un petit balcon. Le petit balcon haussmannien, je sais, a sauvé quelques personnes pendant le confinement parce que ça permettait d'avoir enfin un temps de respiration.
Oui, on ne peut pas déjeuner ou dîner à 4 sur ce balcon.
Non, évidemment, bien sûr, mais il y a eu dans les 70 des mouvements extrêmement intéressants qui reviennent à la mode, qui permettaient d'avoir des appartements avec des pièces, une pièce en plus, une sorte de loggia transformable en jardin d'hiver, et en été, on pouvait profiter d'un espace extérieur qui donc finalement
le prolongement. Le petit beau window des années 30.
Exactement. Donc en fait, on ne fait que réinventer et l'histoire fonctionne en cycle et l'architecture fonctionne en cycle. Et plutôt que de mettre à plat et de dire on repart à zéro, non, en fait, il faut reprendre ce qui a existé, refaire un diagnostic de ce qui a existé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et reprendre les meilleures idées pour pouvoir créer l'habitat de demain.
Alors, au-delà du logement de demain, si on élargit un petit peu le débat et qu'on se met dans une espèce de vue prospective, la réflexion sur l'aménagement du territoire, elle vous paraît pertinente? Est-ce qu'on peut dégrossir le propos, regarder à la fois évidemment le logement, mais aussi les équipements, les lieux de travail, la ville de demain, quelle est-elle?
Alors la ville de demain, effectivement, elle doit être pensée dans une réflexion globale. Et j'aime bien cette notion de rapport au vivant. En un mot, le vivant est conçu dans un rapport d'échelle, c'est-à-dire qu'on a, nous, corps humains, on est conçu d'un ensemble de cellules, et ce corps, il a un dialogue avec l'espace. Donc il y a cette idée organique du micro et du macro. Eh bien, la ville, la mégapole, elle doit discuter avec les petites villes, qu'elles soient rurales ou qu'elles soient dans d'autres conditions. Et il est très important de créer une programmation globale qui puisse interagir entre les mairies qui sont au plus près des habitants de leur contexte local et trouver un équilibre juste avec le pouvoir central qui lui peut inputer des grandes idées qui seront challengées encore une fois par la petite échelle, les habitants des villes.
Et alors du coup, on a donc une capacité à regarder. Je suis désolée, on va être peut-être obligé un petit peu de conclure sur cette dynamique, parce que même si on a des idées importantes et nouvelles sur la ville de demain, on est quand même obligé de revenir, on va dire, à la commande qui est peut-être la vôtre, qui est celle des architectes aujourd'hui et qui quelque part nous empêche un petit peu une certaine créativité, non ?
Oui, absolument. Alors, je reviens sur les normes, juste une parenthèse très importante, vous m'avez posé la question. Effectivement, il va falloir qu'on arrête de légiférer à tout va sur les codes de la construction, sur les codes de l'art de construire pour la databilité au PMR, etc. Il faut créer une architecture qui soit du bon sens, c'est-à-dire qui puisse s'adapter au monde de demain. Et on parle de réemploi également. La lutte contre le changement climatique, elle nous impose de réinvestir les bâtiments existants, de réemployer la matière qui est sur place. Et donc, il faut que les réglementations s'adaptent et s'assouplissent de manière à ce qu'on puisse réemployer également les matériaux, créer des lieux où effectivement la salle de bain ne soit pas
la salle de bain, c'était ça mon expression, excusez-moi.
Vous avez raison, exactement, et de manière à ce que les gens puissent vivre encore une fois et que nous puissions, nous les créatifs, les architectes, trouver des solutions pour encore une fois créer des logements humain.
Voilà, c'était ça un petit peu l'idée, c'était de se dire effectivement que les normes quelque part nous bridaient dans notre créativité et justement dans le fait de créer des lieux de vie un petit peu plus, adaptés. Je pense que nous allons évidemment continuer, chère Maude, avec une deuxième interview plus axée, on va dire, sur l'agence et sur votre ADN. À bientôt, chers auditeurs.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.